À la une coupure de courant généralisée sur la Grande Terre cet après-midi. Un incident qui a touché le réseau Enercal. La distribution d'électricité a été rétablie progressivement cet après-midi. L'émotion toujours vive à Boulou-Paris. Après le drame qui a coûté la vie à une figure des courses hippiques et du rodéo, Roland Moisson mortellement touché par balle après une altercation avec un voisin ce 1er mai. Ghislaine Arly a siégé pendant 5 ans au CESE national. Elle revient sur son travail comme membre du Conseil économique, social et environnemental où elle a participé à l'élaboration de nombreux textes. L'exercice Tagatatoa 2026, des opérations d'entraînement interarmées prévues sur le territoire, un moyen de renforcer la coopération régionale aux côtés des forces de souveraineté françaises basées en Nouvelle-Calédonie. À l'international, Donald Trump va étudier le nouveau plan de paix présenté par l'Iran. Le conflit au Moyen-Orient continue d'impacter la distribution mondiale de carburant. Le sport du football, plus que 2 journées à disputer dans le championnat de France. Ce soir, le Paris FC d'Antoine Comboiré recevra notamment les Bretons de Brest. Et en Calédonie du volley avec la coupe d'ouverture jeune de la province sud qui a rassemblé près de 300 participants durant tout le week-end. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Week-end pour tous savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une de l'actualité, une coupure de courant généralisée cet après-midi sur la Grande Terre. Selon les premières hypothèses, l'incident aurait été provoqué par une forte activité orageuse dans le Grand Sud. Un incident qui a donc touché le réseau Enercal. La distribution d'électricité a été interrompue à 12h28 sur le réseau de transport de la Grande Terre, ce qui a provoqué une coupure généralisée. La panne a impacté près de 100 000 foyers. Les explications de Nathalie Pantaloni, responsable de communication chez Enercal.
Les équipes Enercal ont constaté vers 12h30 un déclenchement de la ligne du Kossiaté, probablement dû aux orages qui étaient nombreux en début d'après-midi sur le sud de la Grande Terre. Et en réalité, ça a déclenché l'ensemble du système électrique de la Grande Terre. Donc les 100 000 foyers et professionnels de la Grande Terre ont été impactés. Comme d'habitude, les équipes Enercal se mobilisent pour essayer de rétablir avant tout et en tout premier lieu l'ensemble de l'alimentation. C'est quelque chose qu'ils ont réussi à faire à partir de 13h15 et jusqu'à 14h. Donc à ce moment-là, Enercal, le réseau de transport, fournit l'électricité aux communes. Puis c'est Enercal réalimente les foyers calédoniens et les professionnels. C'est difficile de savoir exactement quand le dernier client a été rétabli. Néanmoins, la coupure, l'incident de départ a duré 1h30 à son maximum. Maintenant, les équipes restent évidemment toujours mobilisées, cette fois pour bien comprendre pourquoi l'incident s'est généralisé. En général, un incident génère une coupure localisée pour protéger le reste du réseau. Là, il y a eu contagion. Les équipes analysent ça et font le nécessaire pour qu'il ne se reproduise pas.
Les distributeurs d'énergie, EEC et Enercal, ont pu relancer les réseaux de distribution pour réalimenter les foyers dans l'après-midi. Le fameux principe de reconstruction du réseau en château de cartes que nous avons déjà pu expliquer sur notre antenne dans les situations similaires précédemment. L'objectif était d'éviter une nouvelle coupure d'ampleur en réalimentant progressivement les foyers. EEC indique que la majorité de ses clients, à l'exception de ceux de la commune de Canala, étaient réalimentés en électricité aux environs de 15h. Enercal précise pour l'heure donc que c'est une forte activité orageuse dans le sud de la Grande Terre qui est à l'origine de cet incident sur la ligne IAT du COS. Les équipes techniques poursuivent leurs analyses pour expliquer la généralisation de la coupure et éviter qu'elle ne se reproduise. Ce long week-end du 1er mai qui s'achève aura été marqué, rappelons-le, par un conflit de voisinage qui a tourné au drame à Boulou-Paris. Un homme de 59 ans a tiré sur un autre âgé de 43 ans qui passait la débroussailleuse dans un champ avec ses deux fils. La victime, Roland Moisson, a reçu une balle à l'abdomen. Le tireur a été interpellé et placé en garde à vue. Roland Moisson était un homme bien connu dans le milieu du rodéo et des courses hippiques. Écoutez Ivan Dragisevic, président de la Société des courses hippiques de Boulou-Paris.
Terrible tragédie qui est arrivée nous plonge vraiment dans quelque chose qu'on n'imaginait pas, et que Roland était une figure du cheval en Calédonie, particulièrement à Boulou-Paris, puisque c'est une famille de Boulou-Paris et très bien ancrée dans le monde hippique. Toujours le monde du cheval, quelqu'un qui était serviable, toujours prêt à aider dans ce monde des courses hippiques, du stock, des rodéos. Nous, particulièrement à Boulou-Paris, sur les courses de chevaux, on savait que quand il était là, c'était une personne de confiance pour amener un cheval sur l'hippodrome. Les sociaux professionnels propriétaires lui faisaient confiance. Et c'était vraiment quelqu'un de très calme, serviable, à la hauteur de ce qu'il pouvait amener sur un hippodrome.
Rappelons qu'après ce drame, le parquet de Nouméa a ouvert une information judiciaire du chef d'homicide volontaire.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Boulou Paris, Saramea, La Foy, Moindou, Farino, c'est le sang.
Vaimoa Mouliava, nommé au Conseil économique, social et environnemental national. Nous en parlions il y a quelques jours sur notre antenne. Il y remplace Ghislaine Arly, qui a été membre du CESE pendant 5 ans. Ghislaine Arly était membre du groupe des Outre-mer dans la délégation aux droits des femmes et à l'égalité et au sein de la commission environnement. Des commissions au sein desquelles Ghislaine Arly a participé à l'élaboration de plusieurs textes.
J'ai participé à l'élaboration alors, de rapports ou de contributions, on fait même des résolutions aussi. Donc pour certaines desquelles j'ai été aussi rapporteur, pour ces textes particulièrement la santé des femmes dans les Outre-mer, le pouvoir d'achat dans les Outre-mer, et puis éventuellement il y avait aussi les violences faites aux femmes dans les Outre-mer. Donc le CESE pendant cette mandature a produit énormément de documents. Il y a vraiment beaucoup de travail qui émane du CESE. C'est très intense et c'est vraiment une source d'informations très importante. Et ce n'est pas seulement pour les institutions, mais c'est aussi très intéressant de pouvoir, à toute personne intéressée, de pouvoir aller consulter ces sujets sur le site du CESE. C'est vraiment très, très important comme travail.
Siéger au CESE aura été l'occasion pour Ghislaine Arly de défendre la Nouvelle-Calédonie au sein de la France, mais pas seulement.
J'ai toujours défendu, donc comme nos députés, comme nos parlementaires, on a toujours défendu la Nouvelle-Calédonie dans tout ce qui concerne l'Hexagone, parce qu'il est important d'être toujours présent et de toujours rappeler que nous sommes là, nous, en général, l'Outre-mer. Donc le représentant de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna est intégré au groupe Outre-mer, qui défend les intérêts de l'ensemble des territoires. Il faut bien comprendre que le contexte calédonien s'intègre dans une problématique qui concerne l'ensemble des Outre-mer, comme je viens de le dire. Aucun dossier particulier ne peut être porté, parce qu'on est aussi, on se saisit aussi de dossiers. Donc, il faut qu'on soit intégré dans ce groupe Outre-mer et contribuer à une expression ultramarine. On apporte nos spécificités, mais la spécificité ultramarine, mais c'est vrai que tous les ultramarins sont très spécifiques en eux-mêmes. Donc, on apporte toute cette expression dans un avis national, quoi. Le CESE n'est pas habilité à mettre en évidence des particularités régionales, sauf que parfois, on cite des exemples qui peuvent être très, très importants, comme l'exemple de nous, de notre application PRI-NC, de la DAE, qui a été pris en exemple pour tous les ultramarins. Et même en Hexagone, cette application a été citée et prise en exemple. Donc voilà, on est content quand il y a quelque chose qui peut sortir de chez nous.
J'ajoute que Vaimoa Mouliava, ancien membre du gouvernement, fait partie des 8 nouveaux membres du Conseil économique, social et environnemental national. 8 membres nommés par la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou. Vaimoa Mouliava va donc siéger pour le Pacifique aux côtés de la Polynésienne Evelyne Brichet, directrice exécutive à la Banque Socredo. Il y sera installé le 20 mai prochain, le jour où les membres du CESE national éliront leur président pour les 5 prochaines années.
RRB, il est 17h53.
Actualité militaire avec le début en ce dimanche de l'exercice international Tagata Toa 2026. Jusqu'à vendredi, près de 600 militaires seront sur le terrain dans la région de Bouraï et La Foy, Lionel Sabot.
Il s'agit, mon micro ne fonctionne pas, on va changer de micro, hop là, non, on va se mettre ici, ça ne marche pas non plus.
Eh bien, on va prendre celui-ci. Il s'agit donc d'un exercice de grande ampleur, exercice international, vous le disiez, mais aussi interarmes, qui est conduit par le Régiment d'infanterie de marine du Pacifique, Nouvelle-Calédonie, le RIMAP-NC, un exercice qui, au-delà de l'aspect opérationnel, entre dans le cadre du rayonnement des forces armées en Nouvelle-Calédonie, dans la grande région pacifique. Le colonel Loïc Belbéoc est le chef de corps du RIMAP-NC.
Tagata Toa, ça veut dire homme guerrier ou homme de guerre, donc c'est un scénario de haute intensité où on déploie l'ensemble de nos soldats sur le terrain pour manœuvrer tous ensemble et faire entraîner aussi notre poste de commandement, le RIMAP au sol, à terre, mais aussi avec la partie maritime, les marins de la base navale qui viennent nous mettre en amphibie, avec leurs moyens amphibies au niveau du fort terrain bas, et puis pas bien sûr nos parachutistes qui sauteront à partir des avions. On n'est pas tout seul, puisqu'on dans cet exercice, on intègre aussi des partenaires, des alliés, des sections américaines et aussi des sections de Papouasie-Nouvelle-Guinée. On a pour objectif, bien sûr, de à la fois entraîner, s'aguerrir, s'endurcir, bon, être au contact du terrain et des populations. On a quelques objectifs internes qui sont travailler en interarmes et interarmées. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité avec nos partenaires américains et de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça nous permet de tester tous nos systèmes d'information. Donc nos systèmes de transmission.
La phase de déploiement des troupes a débuté aujourd'hui et tout au long de la semaine, ce sont donc près de 600 militaires qui seront sur le terrain dans la grande région de Bouraï-Lafou à Moindou. Une présence sur le terrain qui suscite déjà évidemment la curiosité mais aussi quelques interrogations de la population. Et pour répondre à ces interrogations, le RIMAPNC a communiqué à plusieurs niveaux. On retrouve le colonel Belbeok.
D'abord, il y a par les autorités civiles et coutumières. On les remercie parce qu'on leur a demandé l'autorisation. Ils ont accueilli chaleureusement, donc c'est pour de gratuite, ensuite par la communication, par les réseaux radio, et puis sur le terrain, plus concrètement, on a ce qu'on appelle une équipe de direction d'exercice, et des officiers arbitres contrôleurs qui sont là à chaque fois où il y a une unité pour échanger avec la population, expliquer ce qu'on fait, donc que les populations n'hésitent pas à aller vers eux, à poser des questions, ils expliqueront quelle est la manœuvre en cours. Tout ça, c'est un grand entraînement pour mettre de l'huile dans la machine du RIMAP.
Et j'ajoute que nous reparlerons de cet exercice Tagata Towa 2026 demain matin. Le lieutenant-colonel Jérôme, chef du centre opérationnel de l'état-major interarmé, et le lieutenant-colonel Bertrand, le chef du bureau des activités, seront nos invités du matin.
L'exercice Tagata Towa 2026 sera donc l'un des temps forts de la semaine qui va débuter. Une semaine, une nouvelle fois un peu particulière, puisqu'elle se terminera par un nouveau week-end de 3 jours.
Oui, c'est en effet vendredi, le 8 mai, que nous célébrerons le 81e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie et donc de la fin des combats de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Comme chaque année, plusieurs cérémonies seront organisées au pied des monuments aux morts de nombreuses communes de Nouvelle-Calédonie. Ce long week-end du 8 mai sera marqué également par la 28e édition de la fête du cerf et de la crevette à Bouloupari, évidemment. Rendez-vous est donné samedi et dimanche sur l'hippodrome de la commune. 150 exposants seront sur place et de très nombreuses animations seront proposées au public qui, comme chaque année, viendra nombreux pour cette fête du cerf et de la crevette. Le reste de la semaine s'annonce plutôt calme. On notera que c'est demain, en début d'après-midi, que le Caracal, un des bateaux de la CMI, la Compagnie Maritime des Îles, appareillera pour une première liaison entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Mercredi se tiendra la cérémonie de réouverture du groupe scolaire Louise de Gréland à Dimbéa, fortement dégradé lors des émeutes du mois de mai 2024. L'école Louise de Gréland a pu réouvrir ses portes le 20 avril dernier. La reconstruction de l'établissement s'est faite grâce au soutien de l'État. La cérémonie se déroulera en présence du haut-commissaire Jacques Billan. Enfin, jeudi sera la journée internationale de la Croix-Rouge. À cette occasion, la délégation calédonienne organise une matinée portes ouvertes au centre d'accueil de jour Édouard Trubert, installé à Magenta.
Dans le reste de l'actualité, en bref, à l'île des Pins, de nombreux visiteurs avaient fait le déplacement ce week-end pour la traditionnelle fête du Bulim qui s'est achevée aujourd'hui. Festivité organisée alors que le Betitcho a repris ses rotations et que les vols entre la Tontouta et l'aérodrome de Moué ont débuté le 30 mars dernier avec les appareils d'Air Calédonie. L'escargot était à l'honneur pour le plus grand plaisir des visiteurs et de la population de l'île des Pins. Et aux îles Loyauté, depuis vendredi, l'île de Marais vivait au rythme de la 33e édition de la fête de l'avocat à la tribu de Netsé. Moins de touristes cette fois pour faire le déplacement en raison des problèmes de transport. Les festivités à Marais s'achèvent ce soir. À Nouméa, les fées, les gobelins et autres créatures imaginaires étaient au rendez-vous du Sifi Club au parc provincial zoologique et forestier ce dimanche. Les familles étaient nombreuses à venir profiter du premier pique-nique féerique de l'association des fans de science-fiction et de fantastique.
Valentina, je suis une fée et je contrôle l'eau. J'ai une robe arc-en-ciel, j'ai un maquillage bleu et des gants blancs et une ombrelle blanche aussi. J'aime beaucoup parce qu'avec ma mère, on fait souvent ça avec les copines.
Incroyable, c'est drôle, on est tous déguisés en fée et mon beau-père en gobelin avec son chapeau.
J'adore. Je suis très content de voir que l'imaginaire prend d'autres formes et se devient accessible sous cette forme-là. Alors, on a quand même beaucoup d'oreilles pointues, beaucoup de fleurs, beaucoup d'ailes. Je pense que la thématique, sans vouloir m'avancer, c'est la féerie. Ça se voit. Moi, j'ai une appétence particulière pour celui-ci, avec un gigantesque champignon sur la tête. Très pratique pour saluer les gens.
C'est chouette. Par plein de gens jouent de jeu. Il y a de tout. Il y a de la musique. Il y a des gens très beaux. Il y a du maquillage. Un peu de rêve en s'étant troublé, c'est agréable.
Et vous, votre déguisement, c'est
Un grand champignon. un très grand champignon avec des fleurs. Et j'ai fait que des couronnes de fleurs pour mes enfants. C'est toujours sympa. Et puis ça leur montre, ça les fait rêver un petit peu aussi.
Et pour Lorraine G, référente au Sci-Fi Club, cette première édition est une réussite.
Ça se passe très très bien, je suis ravie. Plutôt satisfaite, il y a beaucoup de monde qui ont joué le jeu. Je suis ravie de voir voilà, des fées multicolores qui sont venues aujourd'hui. On a des lutins, on a des farfadets. Je suis très étonnée. Tout le monde a joué le jeu, presque tout le monde a joué le jeu. Donc c'est extraordinaire. On a vraiment l'impression d'être embarqué dans un autre monde. Parents-enfants, surtout les enfants. En plus, on a la chance d'avoir la maquilleuse Easy Makeup sur place. Donc les enfants sont ravis. Ils repartent avec leurs magnifiques fleurs sur le visage. Donc c'est très très bien. Et même au niveau des parents, on a un esprit champignon avec nous aussi. Une maman qui est magnifique. Donc des couronnes fleuries, du dress code forestier. Non, c'est super.
Des propos et des mélodies à la flûte au micro de Kelinda Boicou. D'autres animations seront proposées dans le cadre des 40 ans du Sci-Fi Club cette année. Et puis toujours à Nouméa, et comme tous les premiers dimanches du mois, le rendez-vous était donné sur la place des Cocotiers pour le traditionnel vide-grenier de la ville ce dimanche matin.
C'est la première fois que nous le faisons et on a trouvé super. On vient de Bouraille, on a passé la nuit là et pour le découvrir, et vraiment très bien, une bonne ambiance. Les gens sont un peu déçus, ils disent qu'il y a moins de monde que d'habitude. Mais c'est très convivial et impeccable.
Et vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît ?
Oh oui, on a trouvé toujours des babioles. Avec trois enfants, y a tout, on trouve toujours quelque chose. Par exemple, des décorations pour le mur, des jeux de société, des décorations. C'est abordable, oui, les gens sont très agréables, les prix sont abordables et on peut négocier. Donc c'est super.
Des jeans surtout pour mon fils. C'est surtout les vêtements pour l'école, surtout les bas, puisqu'ils ont les t-shirts d'école. Il y a certains stands où que c'est cher, mais il y en a que c'est abordable.
J'ai trouvé ce que je cherche, c'est plus de neige pour les enfants, oui. Des broussailles électriques, c'est abordable. Ouais, ça dépend des personnes aussi. Surtout en ce moment.
Les prix sont... ça va, c'est raisonnable.
Et vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît ?
Oui, beaucoup. Comme des jouets pour les enfants. Des sacs de ballon, 200 francs. Des vêtements de sport, à 200 francs, 300 francs. Aux bonnes marques, très content.
Tu es venue avec qui au vide-grenier ?
Avec ma mère.
Qu'est-ce que tu as trouvé ?
Des livres. Des livres Mortel Adèle.
Contente pour ma fille, elle a trouvé ses livres Mortel Adèle. À un tarif super compétitif, oui.
Le prochain vide-grenier de la ville de Nouméa aura lieu le dimanche 7 juin. 18h, passé de 3 minutes, une page de publicité dans ce journal avant de voir l'actualité nationale et dans le monde.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 16 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atout SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
Jusqu'au vendredi 29 mai, jouez avec Créator et tentez de gagner un magnifique collier en perles de Tahiti. Un cadeau d'une valeur de 130 000 francs. Pour jouer, c'est facile. Envoyez maintenant chance au 40-20. Venez découvrir nos bijoux dans nos trois magasins Créator. Centre-Ville Alma, Hyper Rue Païta et au 7e kilomètre. Ouvert en continu toute la semaine et le dimanche jusqu'à 13h à Païta. Créator, c'est des bijoux pour toute la famille et tous les budgets. Des bagues, des colliers, des perles et des diamants. Alors pour tenter de gagner ce magnifique collier en perles de Tahiti offert par Créator, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 29 mai à 14h, 371 francs par SMS. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de votre journal d'actualité en métropole et dans le monde avec Mickaël Juneski.
L'actualité dans le monde tout d'abord. Le conflit au Moyen-Orient ne semble trouver aucune issue. Alors que les négociations sont dans l'impasse, la guerre pourrait reprendre à tout moment selon un responsable militaire iranien. Téhéran s'est dit prêt à tous les scénarios. La République islamique estime que la balle est dans le camp des États-Unis. Aucun détail n'a filtré de la nouvelle proposition adressée aux États-Unis via le Pakistan. Mais ce texte est loin d'être satisfaisant selon Donald Trump. Trump, le président américain, interrogé devant la Maison-Blanche.
Je veux dire, est-ce qu'on veut les pulvériser une fois pour toutes ou est-ce qu'on veut essayer de conclure un accord ? Telles sont les options.
Vous allez les pulvériser ?
Je ne préfère pas, pour une raison humanitaire, je ne préfère pas, mais c'est une option. Voulons-nous intervenir massivement et les anéantir ? Ou voulons-nous faire quelque chose d'autre? Leur direction est très désorganisée.
C'est la deuxième fois cette semaine que Donald Trump balaye une proposition iranienne. Pas convaincu sur le nucléaire, le président américain doit désormais affronter le Congrès pour poursuivre la guerre. À noter que 20 bâtiments de la marine américaine sont toujours positionnés au Moyen-Orient. Seul le porte-avions Ford, le plus grand des trois déployés, a quitté la zone. Le verrouillage du détroit d'Ormuz est maintenu par Washington. Le retrait des troupes américaines en Allemagne se prépare. Un départ anticipé par le ministre de la Défense allemand pour qui l'Europe doit faire plus pour prendre en main sa sécurité. Au moins 5000 militaires américains devraient quitter l'Allemagne d'ici 6 mois à 1 an. Cela pourrait même être plus, laisse entendre l'administration Trump. Une réaction après la critique par Berlin sur l'absence de stratégie américaine dans le conflit au Moyen-Orient. Le chancelier allemand avait estimé en début de semaine que Téhéran humiliait la première puissance mondiale. Les États-Unis qui menacent également l'Europe de nouveaux droits de douane, plus 25% sur les véhicules européens importés aux États-Unis dès la semaine prochaine. Ce serait un coup dur pour l'industrie automobile européenne qui exporte 700 000 véhicules chaque année outre-Atlantique. Une mauvaise nouvelle surtout pour l'industrie allemande qui demande une désescalade. Caroline Baudry pour Europe 1.
Nous appelons à l'ouverture de négociations, déclare la patronne du lobby automobile allemand. Avec ses 700 000 véhicules Mercedes ou Volkswagen exportés chaque année aux États-Unis, l'économie allemande serait la plus touchée. Détaille Antoine Bouet, directeur du CEPI, le Centre d'analyse d'économie prospective et d'information internationale.
Ce sont essentiellement des automobiles allemandes qui sont exportées vers les États-Unis. L'industrie est plus importante en Allemagne par rapport en France et le secteur automobile est dans l'industrie allemande extrêmement important. Et l'Italie et la Suède sont aussi concernées, plus que la France, par ces droits de douane potentiels.
La France serait touchée indirectement si moins de véhicules sont exportés. Les usines tricolores qui produisent des pièces détachées pour les constructeurs voisins verront leurs commandes baisser. Reste à savoir si ces taxes seront instaurées. Il y a un an, Donald Trump avait fait une menace identique. Puis les accords de Turnberry avaient fixé ses droits de douane à 15%. Ce texte doit encore être approuvé par le Parlement européen. C'est la raison officielle de l'agacement du président américain et de cette nouvelle menace, qui est aussi un moyen de punir l'Europe peu coopérative dans les opérations américaines en Iran.
Les précisions de Caroline Baudry pour Europe 1. En métropole, le dispositif Grand Rouleur, inscrit au journal officiel. Ce dispositif promis fin avril par le gouvernement est destiné aux travailleurs les plus modestes et qui ont besoin de carburant. 3 millions de personnes recevront 50 euros pour faire face à la flambée du prix de l'essence. Ça reste insuffisant pour de nombreuses personnes qui étaient mobilisées à Paris ce week-end pour alerter l'exécutif. Patrick Legras, le président de la coordination rurale.
Une tonne d'engrais, il faut 800 mètres cubes de gaz. Le gaz, c'est très simple, trois zones d'approvisionnement. La Russie, avec qui on est en guerre, le Moyen-Orient, avec qui on est en guerre, et les États-Unis, avec qui l'Europe est quand même en délicate position. Si on trouve pas une solution dans les semaines qui viennent, on a un risque qu'il manque 25% de l'ensemble des cultures par un manque de fertilisation.
Elle était également mobilisée des pêcheurs. Le gouvernement leur a accordé une aide de 35 centimes par litre de gazole pour le mois de mai. Insuffisant, pour rester rentable selon l'Union française des pêcheurs artisans qui souhaitent des mesures supplémentaires. De son côté, l'exécutif appelle au bon sens. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, encourage Total Energy à un plafonnement généreux des prix à la pompe sans annoncer d'éventuelles aides supplémentaires ou baisses de taxes. Notez que cette semaine, l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos sera Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, candidat à la présidentielle et auteur de 2027, La liberté ou la mort. Une émission que vous retrouverez sur l'antenne d'RRB demain soir, juste après Info Soir, votre grand journal de 17h45. En bref, une free party toujours en cours près de la ville de Bourges. Si aucun incident majeur n'a été signalé depuis le début de l'événement mis en place sur un champ de tir militaire, un obus a été retrouvé en bordure du site, ce qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre et des démineurs. C'est ce qu'a annoncé la préfecture du Cher. Durant cet événement, 12 participants ont déjà été blessés. On rappelle que près de 40 000 fêtards ont décidé de participer malgré la dangerosité du site. Les organisateurs de cette free party ont été identifiés. Ils feront l'objet de poursuites judiciaire. 18h10, une dernière pause publicitaire avant de voir tout le sport et notamment le retour des Grands Prix de F1 demain matin à Miami. A tout de suite.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La fin de votre journal Le Sport avec Mickaël Juneski.
Les sports mécaniques, la F1 reprend ses droits après 5 semaines de pause.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et oui, vous le savez, une pause forcée pour cause de conflit au Moyen-Orient. Pilotes et écuries ont donc retrouvé les paddocks et la piste. La quatrième manche du championnat du monde se déroule aux États-Unis, à Miami, en Floride. Lionel Sabot.
Et la matinée aura été très riche sur la piste de Miami avec deux temps forts de ce week-end de compétition. D'abord, la course sprint qui s'est déroulée très tôt ce matin pour nous et qui aura vu le champion du monde en titre, le Britannique Lando Norris, s'imposer devant son coéquipier Oscar Piastri, qui a profité d'une pénalité de 5 secondes infligée à Kimi Antonelli pour se hissé sur la deuxième marche du podium. Un podium complété par Charles Leclerc au volant de sa Ferrari. À l'issue de cette course sprint, les pilotes ont repris le volant assez rapidement pour disputer cette fois-ci la qualification pour la course principale. Et c'est Kimi Antonelli qui a signé la pole position au volant de sa Mercedes. Troisième pole position de suite pour le jeune pilote italien. Antonelli qui demain aura à ses côtés sur la grille de départ, sur la première ligne, la Red Bull d'un certain Max Verstappen qu'on n'avait pas vu à pareille fête depuis des mois. Sur la deuxième ligne, on trouvera la Ferrari de Charles Leclerc et la McLaren de Lando Norris. Côté français, Isaac Hadjar et Pierre Gasly s'élanceront depuis la cinquième ligne après avoir signé respectivement les 9e et 10e temps. Esteban Ocon partira lui un peu plus loin après avoir signé le 15e temps. Le départ du Grand Prix des États-Unis sur le tracé de Miami sera noté, notez bien l'horaire, à 4h, heure de Nouméa, au lieu de 7h, comme initialement prévu. Départ donc à 4h demain matin. Course avancée, puisque l'on craint la formation d'orages dans la région de Miami.
Et durant ces 5 semaines d'interruption, la Fédération internationale du sport automobile, les écuries et les pilotes ont travaillé sur la sécurité lors des week-ends de Grand Prix. Avec le changement de réglementation et la modification de moteur, certains moments dans les courses étaient devenus extrêmement dangereux. Un drame a failli se produire lors du Grand Prix du Japon. Christopher Filoc pour Europe 1.
Un bruit sourd et Oliver Berman s'écrase violemment contre un mur à plus de 300 km/h. Le jeune Anglais évite de justesse un autre pilote en train de recharger la batterie électrique de sa voiture. Il roule alors 100 km/h moins vite. Il faut dire que les monoplaces ont été bouleversées cette saison avec des moteurs désormais moitié thermiques et moitié électriques. Après une longue pause forcée de 5 semaines en raison du conflit au Moyen-Orient, les instances de la Formule 1 réagissent et effectuent des modifications pour réduire considérablement ces dangereux écarts de vitesse entre les monoplaces. Des ajustements salués par la plupart des pilotes, comme le français Pierre Gasly.
Il y a eu une bonne conversation entre tous les pilotes, la F1, que ce soit en termes de course ou de sécurité. Dans l'ensemble, je pense que c'est positif et c'est bien qu'on ait réagi aussi rapidement.
Le Néerlandais Max Verstappen, lui, reste sceptique, très critique depuis le début de la saison envers ce nouveau règlement technique. Le quadruple champion du monde demande encore de très gros changements pour la suite.
Christopher Filoc du service des sports d'Europe 1.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1, parrainée par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2026. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
À l'actualité du rugby avec la nuit prochaine, la seconde demi-finale de la Champions Cup, Lionel Sabot.
Et après Toulon, on en reparlera dans un instant, ce sera au tour de l'Union Bordeaux-Bègles, tenante du titre, de recevoir les Anglais de Bath. Ce sera à partir d'une heure du matin pour tenter de se hisser en finale et surtout envisager, pourquoi pas, on leur le souhaite en tout cas, de remporter un deuxième titre d'affilée. Notez également que pour le compte cette fois-ci du challenge européen, c'est la petite Coupe d'Europe, entre parenthèses. Notez que Montpellier recevra les Gallois des Dragons de Newport. Ce sera à partir de 22h30. Rappelons donc que ce matin, Toulon s'est incliné de peu sur la pelouse des Irlandais du Leinster. Score final 29-25. Le RC Toulon qui ne verra donc pas la finale et qui va donc pouvoir se concentrer sur la fin du top 14.
Le football, suite et fin de la 32e journée du championnat de France de Ligue 1.
Oui, 5 matchs qui seront au programme cette nuit et demain matin pour nous, avec une belle affiche affiche pour terminer cette journée. Affiche entre Lyon, le 3e, et Rennes, le 5e. À suivre également à Lille, Le Havre, Strasbourg, Toulouse, Paris FC, Brest et Auxerre, Angers. Et puis rappelons que ce matin, 4 matchs se sont disputés. Le Paris Saint-Germain a marqué le pas au Parc des Princes en ne faisant pas mieux que match nul. 2 buts partout face au FC Lorient. Les Parisiens qui avaient sans doute encore dans les pattes leur très belle victoire face au Bayern de Munich la semaine dernière, 5-4. Lens n'a pas fait mieux sur la pelouse de Nice. Les Lensois ont été tenus en échec 1-partout. Monaco est allé l'emporter 2-1 sur la pelouse de Metz. Et puis on vous a gardé le meilleur pour la fin avec une nouvelle défaite de l'Olympique de Marseille qui s'est incliné 3-0 sur la pelouse de Nantes. Ça ne fait pas l'affaire des Marseillais. En revanche, les Nantais, eux, se relancent complètement dans la course au maintien.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Allez fou, c'est le 102.5.
Le sport en Calédonie du volley. Après les seniors le week-end dernier, c'était au tour des jeunes de disputer la coupe d'ouverture de la province sud pour les catégories moins de 13 ans jusqu'à moins de 21 ans tout au long du week-end.
Ça fait du bien et on est content.
C'était bien passé.
Vous avez gagné en plus.
Oui.
Ah, moi ça m'a fait du bien, hein. C'était trop bien.
Ben, c'est bien de gagner.
Ça se passe bien.
Ouais, ça va, c'est du bien de jouer.
C'est bien.
Ben, c'était bien. C'était facile. Ça fait du bien de faire du sport pour le week-end. Ben, parce qu'on joue et puis ben voilà, on s'amuse. Ben, bien, pareillement comme elle. Ça fait du bien de jouer avec tous ses amis et tout. Après, ben, ça m'a fait du bien de reprendre le volet.
Près de 300 jeunes étaient réunis ce week-end pour cette compétition à l'Arène du Sud de Païta et à la salle Ernest Weho de Dimbéa. Allez, encore des résultats du football. La 7e journée de Super League qui aura été marquée, on vous le disait dans nos précédentes éditions, par la nouvelle agression d'un arbitre hier lors de la rencontre Horizon Sport Lossi. Un joueur d'Horizon qui a asséné un coup de poing à l'arbitre du match. Geste vivement condamné par la Fédération Calédonienne. Horizon qui s'est incliné face à Lossi 2-1. Tiga a perdu contre Magenta 1-0. Yengen et Gaïtcha ont fait un nul, 1-partout. La Escunia a battu Saint-Louis 2-1. Enfin, Nedjeoul l'a emporté sur Le Mont d'Or 3-2. 18h17, l'heure de votre météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo, pour professionnels et particuliers, et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
La météo que vous nous détaillez, Pierre, bonsoir.
Bonsoir. Cette nuit, d'une manière générale, les étoiles s'imposeront dans le ciel. Quelques averses isolées pourront encore concerner les Loyautés ainsi que la côte est en soirée. Le vent de secteur est compris entre 5 et 10 nœuds deviendra souvent variable et faible sur la Grande Terre. Les températures de la nuit resteront douces, des minimales comprises entre 18 et 22 degrés. Demain matin, le soleil dominera largement sur l'ensemble du territoire. Quelques nuages accompagneront encore de rares et faibles averses sur les Loyautés et l'extrême sud. Le vent d'est à sud-est s'établira autour de 10 nœuds. Et côté mer, la marée sera haute à 21h26 avec 1,52 m, puis basse demain matin à 3h30 avec 63 cm. Et côté ciel, la lune descendante offrira un clair de lune de 93%, une lumière presque pleine, assez généreuse pour donner à la nuit un visage calme et en plein.
Merci beaucoup Pierre, c'est la fin de cette édition. On se retrouve à 19h pour d'autres infos, toujours à l'écoute de Radio Rythme Bleu.